Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il nous reste à contempler l'effet principal du sacrement de confirmation, à savoir qu'il nous donne le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Vous vous rappelez que nous avons vu la dernière fois que le sacrement de la confirmation fait de nous de parfaits chrétiens, soldats du Christ et de l'Église. Et nous avons vu qu'un parfait chrétien, c'est un soldat. Alors évidemment, il faut bien comprendre la comparaison. Il ne s'agit pas d'un soldat qui porte les armes, parce que l'homme, dans la plénitude de la force de l'âge, est un parfait soldat, puis quand il vieillit, il cesse d'être un bon soldat. Mais je vous en ai dit un mot, cela déjà la dernière fois. Il s'agit d'une préoccupation du bien commun de l'Église, il s'agit de participer activement à l'extension du règne de Jésus-Christ. C'est un combat essentiellement spirituel, c'est un souci du règne de Jésus-Christ, un travail avec l'Église, et il est évident que même les vieillards sont encore aptes à mener ce combat. Vous vous rappelez, nous avons parlé également de la place des femmes dans le combat de l'Église. Dans le présent sermon, nous allons donc voir comment et pourquoi on peut dire et on doit dire que le Saint-Esprit est donné particulièrement dans le sacrement de confirmation. Parce que, vous voyez, ce sacrement est quand même difficile à comprendre, il est relativement mystérieux, puisque le Saint-Esprit, en réalité, est donné dans tous les sacrements. Pourquoi, alors, l'attribue-t-on plus particulièrement au sacrement de confirmation? Eh bien, parce que participer activement à l'œuvre de l'extension du règne de Jésus-Christ, ce n'est pas un quelconque amour du Christ. Il ne s'agit pas seulement de vivre de l'amour du Christ. Cela, le baptême le donne. Vous voyez, le baptême le donne le Saint-Esprit parce qu'il nous donne l'amour de Dieu, pas seulement du Christ, un amour de Dieu, dont nous vivons. Dont nous vivons d'une façon pas pleinement active encore. Nous aimons Dieu, nous le possédons, cela suffit pour entrer au ciel, mais, je vous l'ai dit, cela ne suffit pas pour être chrétien parfait, c'est-à-dire travailler à l'extension du règne du Christ. Cela, ce travail, suppose un amour de Dieu beaucoup plus intense, et l'Écriture sainte nous parle de feu, un amour de Dieu qui est le feu de l'amour. Pourquoi le feu? Parce que le feu gagne, s'étend, réchauffe ceux qui sont autour de lui. Il n'est pas seulement chaud en lui-même, mais il réchauffe autour de lui. Vous savez que le Saint-Esprit donne l'amour, hein, puisque l'amour est attribué au Saint-Esprit. Vous avez donc deux degrés d'amour, donc deux degrés de présence du Saint-Esprit. Vous avez un premier degré d'amour dans lequel on aime Dieu, mais on ne le communique pas, et cela est donné par le baptême. On ne le communique pas, disons que ce n'est pas la fonction essentielle. Et puis vous avez un deuxième degré d'amour dans lequel on communique l'amour de Dieu, on en vit et on le communique, et cela c'est une plénitude de l'amour, et donc ça suppose une plénitude de la présence du Saint-Esprit dans les âmes. Il est évident que si le Saint-Esprit se communique pleinement en personne, il communique également la plénitude de ses dons qui vont justement accompagner ce travail d'extension du règne de Jésus-Christ. C'est facile à comprendre, il faut que le Saint-Esprit soit non seulement présent mais actif, et il est actif à travers ses dons. Et ces dons vont être à un niveau supérieur, voilà pourquoi on parle de dons particulièrement. Il y a beaucoup de choses qui sont des dons de Dieu. La vie est un don de Dieu. La vertu est un don de Dieu. Il y a même des dons naturels. Il y en a qui ont les dons de la musique ou le don des maths ou que sais-je. Mais là, on parle de don par excellence. Pourquoi? Parce que c'est justement un don parfait. Au-dessus de cela, il n'y a pas plus parfait. Pourquoi il n'y a pas plus parfait? Parce que au-dessus de l'amour qui se communique, il n'y a pas plus parfait. Un amour qui rayonne, il peut y avoir un amour plus ou moins intense, mais un amour qui rayonne, c'est un amour parfait. On voit cela chez les missionnaires. Les missionnaires non seulement rayonnent l'amour de Dieu et du Saint-Esprit, mais on pourrait dire qu'à travers eux, c'est le Saint-Esprit qui se communique. Il communique le Saint-Esprit, ça c'est ce qu'on voit, mais c'est parce que le Saint-Esprit est présent en eux. Et le Saint-Esprit se communique à travers eux. Et donc il y a une unité, une union très profonde entre le chrétien parfait et le Saint-Esprit, et dans l'exemple que nous prenons, entre le missionnaire et le Saint-Esprit. Finalement, quand on regarde l'action du missionnaire, on ne sait plus très bien si c'est le Saint-Esprit qui agit ou le missionnaire qui agit. C'est les deux ensemble. On voit ça particulièrement, par exemple, chez Saint-Pierre. Justement, le jour de la Pentecôte, Saint-Pierre est rempli du Saint-Esprit. Que fait-il? Il sort aussitôt sur le balcon du Cénacle. Il s'adresse à tous ceux que le Saint-Esprit avait déjà amenés à Jérusalem et qui sont intrigués parce qu'ils viennent d'entendre. Saint-Pierre leur parle avec un tel feu, avec une telle chaleur de Dieu, qu'aussitôt 3000 se convertissent, et ils ne se convertissent pas de façon quelconque, ils se convertissent en recevant eux-mêmes le Saint-Esprit, et ils s'engagent dans une vie chrétienne profonde, totalement consacrée à Dieu, et autant qu'il est possible, séparée du monde. Ils vendent tout, ils distribuent aux pauvres, et puis ils passent leur journée dans la prière au temple, totalement consacrée à Dieu. Le Saint-Esprit a tellement bien été communiqué par Saint-Pierre qu'il le réalise, il opère en eux une œuvre, une conversion tout à fait magnifique, tout à fait extraordinaire. Nous voyons la même chose, par exemple, chez Saint François d'Assise. L'amour de Dieu se refroidissait dans le monde avec l'arrivée du grand commerce avec la route des Indes. Le monde du Moyen-Âge commence à devenir, très peu, mais commence à devenir capitaliste. Et donc l'amour de Dieu se refroidit. Que fait Dieu? Il suscite Saint François d'Assise, qui est un saint de rien du tout en apparence. Et justement, la présence du Saint-Esprit va d'autant plus paraître qu'en apparence, il n'est pas grand-chose. Et c'est un rayonnement et c'est un feu qui embrase très rapidement toute l'Ombrie, puis toute l'Italie, et puis très rapidement également toute la chrétienté. Les bons chrétiens se convertissent, les capitalistes se convertissent. Le premier converti, c'est un capitaliste. François, que puis-je faire pour te suivre? Ce feu se communique. Et d'ailleurs, pour bien montrer que ce feu est présent dans Saint François d'Assise, le Saint-Esprit a voulu marquer le corps de Saint François par les stigmates dans son cœur, dans ses mains, dans ses pieds. Vous avez la même chose chez Saint Vincent de Paul. Pourquoi je vous prends ces exemples-là? Parce que ils sont très caractéristiques. Vous avez Saint-Pierre au début, Saint-François d'Assise, un vrai fou de Dieu qui communique le Saint-Esprit, et Saint-Vincent-Paul, lui, paraît très sage. 17e siècle, siècle très sage, et Saint-Vincent-Paul va œuvrer sagement en apparence, mais dès qu'on regarde un tout petit peu, on s'aperçoit que lui aussi, sa sagesse est un vrai feu. On va pas parler de folie peut-être, mais elle est un vrai feu. Un feu qui se communique à tous les grands du monde pour se pencher sur la misère du peuple un feu qui se communique à des centaines de vocations que Saint Vincent de Paul va envoyer non seulement dans les campagnes, mais également à l'étranger et jusqu'en Afrique du Nord pour rayonner auprès des musulmans. Vous avez les apôtres des Papous. Le récit de la pénétration de l'évangile chez les Papous, c'est lorsque les missionnaires, qui jusqu'alors n'étaient que fous, deviennent pleinement fous. Ils ont été à la limite de leurs forces. L'évêque leur dit, si vraiment vous estimez que vous ne pouvez pas aller plus loin, dites-le-moi, je vous rapatrie en Australie, qui était le pays qui est tout proche de la Papouasie. Si vous voulez continuer, alors débrouillez-vous tout seul, enfoncez-vous dans les montagnes, et puis prêchez le Christ. Vous avez toutes les religieuses, il n'y en a pas une seule qui se fait rapatrier en Australie, puis les missionnaires hommes, les prêtres, il n'y en a pas un seul qui se fait rapatrier en Australie. Ils s'enfoncent dans la brousse, et là, les papous sont, qui avaient déjà vu les blancs, les missionnaires, les papous sont tellement impressionnés par ce feu qui est dans l'âme de ces apôtres, que enfin la mission démarre véritablement, et alors c'est une conversion extraordinaire, on aura même la naissance d'une congrégation de sœurs papous, qui, 20 ans auparavant, étaient de véritables sauvages. Il faut que je vous dise un mot maintenant sur l'attitude que vous devez avoir envers le Saint-Esprit. Parce que vous voyez, ce feu vous saisit. Ce n'est plus tellement vous qui avez l'initiative, vous devez vous laisser guider. Le Saint-Esprit vous prend dans sa main. Ce que vous avez à faire, c'est surtout de vous laisser guider par lui, de l'écouter. L'écouter avec le don de conseil qui vient perfectionner la vertu de prudence, mais également avec les dons qui perfectionnent la foi, les dons de sagesse qui perfectionnent la charité, les dons d'intelligence qui perfectionnent la foi, les dons de science qui nous fait pénétrer dans les desseins de Dieu. Ces dons-là vous saisissent. Qu'avez-vous à faire? À vous laisser saisir. Dans la vertu, vous êtes beaucoup plus... Vous avez une part prépondérante. C'est à vous de choisir. Là, vous travaillez au règne du Christ, vous travaillez activement au règne du Christ, mais l'activité vient du Saint-Esprit et pas seulement de vous. Et par conséquent, la seule chose que nous pouvons vous demander pour, et que le Saint-Esprit vous demande pour lui être fidèle, c'est de ne pas le gêner, de ne pas le contrister, dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Tout péché véniel, toute infidélité, toute petite infidélité empêche que vous soyez pleinement dans la main du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il faut cultiver la délicatesse. Délicatesse de conscience, délicatesse dans la pureté d'intention, délicatesse aux inspirations du Saint-Esprit. Les inspirations du Saint-Esprit sont plus qu'un devoir qui nous est tracé, c'est un feu qui nous est communiqué. On peut toujours dire, oui, je ne suis pas obligé de me laisser enflammer, mais enfin, celui qui est possédé du feu et qui méprise le feu, il a vraiment un problème. Et enfin, dernière recommandation, nous entrons dans une période annoncée déjà depuis longtemps, commencée depuis la Révolution, le Concile Vatican II, que sais-je. Mais là, avec le désastre de l'Église, le désastre de la Fraternité Saint-Pie-X, avec les annonces sur la persécution des familles chrétiennes, par l'école publique, l'école républicaine, l'école sans Dieu, ceci dès l'an prochain, dès le mois de septembre prochain, nous entrons dans une phase aiguë de la lutte, et il est évident que le bon Dieu ne peut pas nous abandonner, et vu la gravité de la lutte, il est évident que c'est le Saint-Esprit qui luttera en nous, à travers nous, par nous, c'est lui qui luttera. Et par conséquent, si vous n'êtes pas plein du feu du Saint-Esprit, si vous n'avez qu'un feu modéré, si vous ne vivez que du baptême, si votre amour est un amour limité, eh bien, il est évident que vous ne pourrez pas gagner dans ce combat titanesque. Il est évident que vous tomberez. Les épreuves actuelles de l'Église et du monde qui nous sont imposées, ces épreuves, ont pour but non pas de faire tomber, même si beaucoup, hélas, tomberont, elles ont pour but de, au contraire, nous mener à un niveau beaucoup plus élevé. Et évidemment, ceux qui accepteront de se laisser guider sans contrister le Saint-Esprit monteront à ce niveau et seront victorieux. Ceux qui contristeront le Saint-Esprit, il n'y aura pas besoin du péché mortel. Il suffira de contrister le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être attaché au monde, c'est-à-dire de vivre dans la crainte du monde, de vivre dans la passion, de ne pas se laisser pleinement guider. Ceux-là seront perdus. C'est vraiment à la très sainte Vierge qu'il faut maintenant demander, puisqu'elle est l'épouse du Saint-Esprit, pleine du Saint-Esprit. Elle ne nous a pas communiqué seulement Jésus-Christ, elle nous a communiqué le Saint-Esprit. C'est à elle qu'il faut demander que nous soyons vraiment à la hauteur des exigences de ce feu de l'amour de Dieu, à la hauteur des exigences, des épreuves dans lesquelles nous entrons. Vive Jésus, vive sa croix, vive le Saint-Esprit, vive le Christ-Roi, vive la Sainte Vierge, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.